Nous avons notre sous-thème qui est la crise, un temps favorable. C'est bizarre comme titre. Hein? La crise, un temps favorable. Mais bien avant d'aborder ce sous-thème, je vais vous faire l'économie de ce qu'on a vu dimanche passé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas nécessaires que pour Dr Bobby qui était à l'extérieur, déjà pour lui, on peut. Et puis, voilà. Pélagie qui n'était pas là, déjà pour eux, on peut reprendre. Et puis pour mon ami qui a fait un accident sur la route, on peut déjà reprendre pour eux. Alors, dimanche dernier, nous avons dit que Dieu agit en son temps. Et nous avons pris l'exemple d'Abraham de manière essentielle. On a survolé plusieurs chapitres. On a pris le chapitre 15, le verset 1, il est écrit « Après ces événements, Dieu parla à Abraham. » Donc, on voit que il y a des événements qui servent de moyen pour que Dieu puisse parler. Donc, on voit que Dieu ne parle pas par hasard. Je n'ai pas parlé de ça le dimanche passé, mais je cite un passage dans Job. Il dit, Dieu parla à Job au milieu de la tempête. Donc, pour Abraham, il a dit, après ces événements, Dieu parla à Abraham en disant ceci, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et j'ai dit dimanche dernier que observez vos vies, il y a toujours des événements qui des fois peuvent être malheureux. Mais après ces événements, Dieu va toujours parler et Dieu va toujours agir. Nous, on voit que Dieu agit dans un temps. Et au même chapitre 15, Dieu, pour confirmer Abraham ce qu'il lui disait, il a fait une alliance avec lui, avec le sang des animaux, des oiseaux purs. Et Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave. Pendant 400 ans, et je viendrai pour intervenir et le délivrer. Ouais, Dieu est le Dieu dans les temps. Il précise même la durée de l'esclavage. Et comme ce n'est pas sur Abraham que nous prêchons sur le temps favorable, mais en dépit de la promesse, elle ne s'est pas réalisée comme Abraham le souhaitait. Et au chapitre 16, on voit Abraham qui s'est égaré avec Agar. Et dimanche dernier, j'ai dit que entre le chapitre 16 de Genèse, et le chapitre 17, il y a eu 13 ans qui se sont écoulés. Abraham avait 86 ans quand Ismaël est né. Et Dieu s'est adressé à lui quand il avait 99 ans. Et j'ai dit que quand on fait des mauvais choix, on peut perdre beaucoup de temps. J'ai dit que je n'étais pas très sûr que Dieu avait voulu qu'Abraham ait son fils de la promesse à l'âge de 99 ans. Dieu lui a dit, tu auras un enfant avec ta femme Sarah. Mais Dieu ne lui a pas dit quand il aurait l'enfant. Et Abraham s'est précipité en partant avec Agar. Pour cela, il a fallu, Dieu a mis 13 ans sans lui parler. 13 ans de silence radio. Donc j'ai dit dimanche dernier que quand nous nous trompons et que nous commettons des erreurs, qu'on n'agit pas comme Dieu le veut, on peut perdre des années. Et que rien n'est figé dans la vie chez Dieu. Rien n'est figé chez Dieu. On peut perdre des années. Abraham a perdu 13 ans. Et au bout de 13 ans, donc à 99 ans, Dieu lui apparaît à nouveau. Pour faire quoi avec lui? Pour faire une nouvelle alliance avec lui. Or, déjà au chapitre 15, Dieu avait déjà fait une alliance avec Dieu, avec lui. Un peu comme pour dire que l'alliance qu'il avait fait avec le sang des oiseaux avait été comme, on peut dire, abrogé ou mis en parenthèse. Et comme Dieu est un Dieu d'alliance, il revient vers lui pour cette fois-ci une seconde alliance. Non plus avec le sang des oiseaux, mais avec son propre sang dans sa partie la plus intime, la plus fragile. Et Dieu fait la promesse aussi à Abraham. Et j'expliquais que au chapitre 18, on est toujours à 99 ans, Dieu apparaît à nouveau à Abraham. Et comme il s'agit des temps favorables, au verset 10, l'ange de l'Éternel qui avait été, bon, qui est venu sous forme humaine, après qu'ils aient mangé le repas qu'Abraham avait préparé, il y a un qui dit à Abraham, au verset 10 de Genèse chapitre 18, où est ta femme Sarah? Car l'année prochaine, je reviendrai vers toi, car ta femme aura un enfant. C'est un temps favorable. Dieu précise le temps ou la période au cours de laquelle il va agir. Dieu agit en son temps. Et au chapitre 21, au chapitre 21, au verset 1 et 2, il écrit que Dieu se souvient d'Abraham, de Sarah, et sa femme tomba enceinte et elle accoucha. Et j'ai dit dimanche dernier en prophétisant ceci, que le temps pour que tu tombes enceinte est arrivé et tu vas accoucher. Il faut dire amen avec moi. Ce n'est pas seulement physique pour les femmes, mais on peut être enceinte des projets, des choses que nous avons. Tout le monde sait de quoi moi je suis enceinte. Je suis enceinte de construire l'église. Tout le monde le sait. Je tourne avec ça, je me réveille avec ça. J'ai même vu ça en songe déjà. Et ça, c'est bon. C'est un bon signe. Cette semaine, j'ai vu l'église construite en songe. Et j'ai vu deux personnes qui étaient en train d'intercéder pour moi, pour l'église en anglais. Dieu est dans cette affaire. Donc, tu peux être enceinte de quelque chose. Et Dieu dit, autant fixé. Autant fixé, Sarah accoucha. Autant fixé par qui? Autant fixé par Dieu, Sarah accoucha. Et j'ai pris l'exemple aussi de qui? De Anne. Autant fixé, Anne accoucha. C'est mon message du dimanche 6 janvier. Je parlerai de cela. Le temps de l'accouchement est arrivé. Et quand donc Dieu a fixé un temps favorable pour toi, au temps convenable, la promesse va se réaliser. Donc voilà un peu de ce dont j'ai parlé assez brièvement dimanche passé. Et aujourd'hui, j'aborde un autre sujet. La crise, un temps favorable. La crise, un temps favorable. Prenez vos Bibles avec moi dans Genèse chapitre 26. Dans Genèse chapitre 26. Une famine dans le pays, où la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélech, roi des Philistins. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta descendance et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Et Isaac resta à Guéra. C'est mon sous-thème ce matin. La crise, un temps favorable. Moi, je réponds que la crise est un temps favorable. Le thème que nous traitons depuis quelques jours, c'est les temps favorables. Ne pensez pas que le temps favorable, c'est seulement quand tout va bien. La crise est un temps favorable. Au temps d'Isaac, une grosse famine avait frappé le pays qu'il habitait. Je ne sais pas s'il y a une crise plus forte que la famine. On a connu des situations difficiles en Côte d'Ivoire avec les événements. Non, il n'y avait pas la famine. Il y avait à manger dans les villages, la nourriture pourrissait dans les villages parce que les voies étaient bloquées à Abidjan. La famine, c'est qu'il n'y a même pas à manger. Probablement, il y a eu une grosse sécheresse. Il dit probablement parce que la Bible ne dit pas, mais pas de famine. Donc, rien ne marchait. On n'était même plus à une affaire de prêt. J'ai besoin d'un prêt. Non. Ou je manque de chaussures, ma chaussure est trouée. Ou j'ai une vieille voiture, France au revoir, je vais la changer. Non, ils sont en galère. On ne parlait même pas de ça. On parlait de manger. C'est-à-dire, lorsque la crise est tellement à un niveau suprême, vous n'avez même plus à manger. Je parle de manger, je ne parle pas de se déplacer, ni de porter des chaussures, je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas de chercher du travail quand tu es au chômage. Tu peux être au chômage et puis demain chez ton cousin, tu manges le soir, une fois la mort subite, ça ne fait rien, tu ne mourras pas avec ça. Mais quand toi-même tu n'as plus à manger, c'est grave. Et voilà ce qui arrive. Isaac, elle a vu la situation s'empirer, il avait plusieurs serviteurs. Il s'est dit, la seule situation pour moi de m'en sortir, de survivre, est d'aller où? En Égypte. Je suis en train de parler sur les temps favorables. Il est en crise, il n'a pas à manger. Toutes ses affaires sont en faillite. Ses bœufs, ses moutons, ses cabris, ses ânes, ses chevaux n'ont même pas de l'eau à boire. Il sent la mort venir. Et il veut bouger en Égypte, qui est un pays prospère, un pays riche à l'époque, une grande puissance, comme vous le savez. Dieu dit à Isaac, toi, pas bouger. Toi, pas bouger. Tu ne bouges pas, tu restes dans ce pays-ci. Quoi, Dieu? On est en crise. Le temps n'est pas favorable. Et tu me dis de rester dans ce pays-ci. Mais je vais mourir. Dieu dit non, cette crise est un temps favorable. Alléluia, tu es avec moi, la crise est un temps favorable. On dit que toi-même, tu n'es pas convaincu. Tu parles tout doucement là. C'est Dieu qui parle ici à Isaac. Il dit, moi Dieu, je vais te bénir. Où? Dans ce pays-ci. À quelle époque? Quand tout va très bien? Quand il y a le boulot? Non. À une époque où il n'y a pas à manger. C'est écrit là dans vos Bibles, noir sur blanc. Dieu dit, je vais te multiplier. Là, dans ce pays où il n'y a pas à manger, je vais te multiplier. Chers frères, chers sœurs, je dis quelque chose qui me vient à l'esprit. Quand tu es dans une situation de crise, je vais parler comme les jeunes, en galère profonde, c'est que la sortie n'est pas loin. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. C'est que la sortie n'est pas loin. C'est en période de crise avancée que Dieu se révèle comme étant le grand Dieu. Comment peut-il prouver qu'il est le grand Dieu? Comment il va le prouver? Quand tout va bien, tu manges, tu vomis même, comme à l'époque les Romains. Ils mangent, ils mettent un doigt dans leur bouche, ils vomissent encore. Tu peux dire gloire à Dieu avec ça? Jamais. Et il faut que des crises arrivent pour que Dieu puisse accomplir pour toi des temps favorables. C'est peut-être pas une bonne prophétie sur vos vies. Mais quand je lis la Bible, c'est en période de crise que Dieu se glorifie le plus. Il dit à Isaac, ne bouge pas ici. Reste là. Parce que ici, je vais te bénir. Comprenons le fonctionnement de Dieu. Je vais rendre le message plus concret. Je suis à l'aise parce qu'on a encore un peu de temps. Quand on ramène la chose dans l'actualité, dans le concret, vous verrez que des gens qui ont fait fortune à quelle époque? Répondez-moi. Consultez l'histoire. Les gens qui ont fait fortune à quelle époque? En période de crise. Ceux qui ont fait fortune font fortune en période de crise. Parce qu'en période de crise, on n'a pas confiance au système. Donc, on n'investit pas, on n'entreprend pas. On attend que les temps puissent se dégager. Ceux qui sont malins disent, c'est le temps favorable. Ils se disent, ils vont investir à cette époque parce que quand la crise va passer, ils seront les maîtres des lieux. Et ceux qui ont le courage d'investir en période de crise réussissent toujours à contrôler les finances et à s'enrichir. Donc, même au niveau purement humain, et je veux dire en termes d'actualité, vous verrez que beaucoup de personnes qui sont enrichies, se sont enrichies en période de crise. Donc, la période de crise est une période favorable. Nous, on en disait un peu ici, le pain, on le vendait à 500 francs, vrai ou faux? Vrai ou faux? Et c'est pain gojo, qui a fait 3 jours, on vendait ça à 500 francs. C'est une période de crise. Donc, la période de crise chez Dieu n'est pas la fin de ta vie. C'est le commencement d'une situation plus glorieuse, qui est plus grande, qui va exprimer la grâce et la faveur de Dieu. Même si tu as vécu quelque chose de difficile, dans ton cœur dit, on dirait que la crise va prendre fin. Quand elle atteint un niveau aigu, c'est que sa fin n'est pas loin. C'est pourquoi Dieu dit à Isaac, attends ici. Maintenant, il attend pour faire quoi? Regardez ce qu'il va faire au verset 12. Regardez ce qu'il va faire au verset 12. Comme Dieu a convaincu de rester, pas pour croiser les bras. Pas pour croiser les bras. Je voudrais que ceux qui passent par des temps de crise ne croisent pas les bras. Le rôle que nous commettons est de dire, mais Dieu m'a pardonné. Je ne comprends pas ma galère. Pour moi, là-même, c'est pire que pour Job. Non. Dans la Bible, j'ai vu Dieu intervenir dans la vie des gens en période de crise. On verra que c'est en période de crise qu'on prie le plus. En période de crise, les prières montent très rapidement au ciel. Pas tu oublies de faire jeûne et prière forcée. Tu n'as pas mangé. Tu as fait comment? Tu as gêné? Tu as approché du trône de la grâce. En période de crise, la loi d'adoration monte au ciel. En période de crise, Il y a des choses qui se réalisent que nous ne comprenons pas. Et on va voir ces choses en détail ce matin. Enfin, pas en détail. On va les survoler. Et après, nous allons prier ensemble. Et ceux qui passent par les périodes de crise ne vont plus être des personnes qui vont dire, ah, je passe, c'est dur pour moi. Le temps n'est pas favorable. Je répète, en période de crise, le temps est favorable. Et voilà, c'est passé au verset 12. Isaac s'éma dans ce pays. Dans quel pays? En Égypte? Non, il n'est pas allé en Égypte. Et la semaine, dans quel pays? À Guérage, les Philistins. Chers frères, chers sœurs, en période de crise, il faut s'aimer, il faut investir. Demandez à Dieu un bon marché. Un bon marché, un bon secteur. Un bon marché. Dans quel domaine vais-je investir en période de crise? Qu'est-ce que je peux faire en période de crise? Baisser les bras? Maudit les parents, maudit Dieu, non. Seigneur, montre-moi ce que j'ai fait en période de crise. On est en période de chômage, peut-être. Peut-être que Dieu veut que tu crées ta propre entreprise. On ne comprend pas toujours cela. On pense que quand on est fini ses études, ou bien quand on a été renvoyé, quelqu'un a été renvoyé de son service. Je ne sais pas qui écoute ce message, mais ça va passer sur le, dans mon antipode, ça va passer sur le net. Et ça passe sur le net. Et les personnes en période de crise, de chômage, deviennent violentes, mécontentes. Elles ne savent pas que c'est une occasion que Dieu leur donne pour commencer leur propre affaire. La période de crise est une période favorable. Et une semaine en arrière, une femme m'a appelé. Je ne la connais pas, bon. Elle m'a dit, pasteur, qu'est-ce que Dieu fait comme ça même? Qu'est-ce que Dieu fait comme ça même? Dieu m'a fait une promesse. Et la promesse ne se réalise pas. Je n'arrive pas à payer ma maison. Je faisais des affaires. Les affaires ne marchent pas. Je suis quasiment en faillite. Pasteur, qu'est-ce que je fais? Elle dit, elle a prié. Et je pense que si elle s'est adressée à moi, elle s'attend à ce que je lui dise, viens, je vais t'imposer la main, je vais prier pour toi. Elle a déjà prié. Dieu l'a exaucé. Nous commettons beaucoup d'erreurs. On pense que quand on appelle de cri, c'est que c'est Satan qui est à la base. C'est faux. Satan n'était pas ici avec Isaac. Satan n'avait rien à voir dans cette affaire d'Isaac. Dieu voulait passer par cela pour que la promesse faite à Abraham se réalise. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? C'était de ça qu'il s'agissait. J'ai dit à la femme, bon, comme tu montes ta propre société, est-ce que toi tu es capable de travailler chez quelqu'un? Elle a dit oui, mais André, en façon, n'était pas très clair. Elle s'attendait à ce que je donne une parole rapidement pour qu'elle trouve un emploi comme ça. Elle dit, mais madame, tu peux commencer à travailler chez quelqu'un? Ça ne fait rien. En 2 ans, si on te paye 40 000 francs par mois, 5 000 francs, ça dépend des maisons, tu fais une bonne économie et avec ça, tu crées quelque chose à nouveau. Je le répète. Après, elle m'a dit, bon, elle m'a appelé. Je pense que la réponse que je donnais ne satisfaisait pas ses besoins. En période de crise, cherche à savoir ce que tu peux faire, où tu peux faire ton trou. Important. Important. Du moins, je suis arrivé, je le répète encore, j'ai acquis une expérience. Qu'est-ce que je fais avec l'expérience que j'ai acquise? Est-ce que je vais toujours commencer à faire? J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance un emploi. Est-ce que Dieu n'est-il pas en train de dire, maintenant, commence à réfléchir. Avec le peu que tu as, commence à monter ta propre structure. Quand la crise arrive et que les portes semblent être fermées partout, c'est que Dieu est en train de montrer une situation, une issue. Dieu voulait que Isaac, qui était fils d'Abraham, qui avait reçu un héritage de son père, c'est écrit dans Genèse chapitre 25, qui avait été béni en tout, il voulait que Isaac expérimente lui-même en tant qu'individu la grâce, la faveur et la richesse de Dieu. Il faut dire amen avec moi. C'est ça. Sinon, Isaac allait dépendre toujours des biens de son père. On n'est pas là pour dépendre de l'héritage de nos parents. Ce que ton père a acquis, il a acquis. Toi-même, il faut créer pour toi. Donc, la crise est un moyen favorable pour dire, je suis à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais avec mes deux mains, avec mes deux pieds, avec mes yeux, avec mes oreilles, avec ma bouche? Qu'est-ce que je commence à faire? Je vais entreprendre. Ou plutôt, je vais écrire. S'il vous plaît, il y a des best-sellers qui ont écrit en prison. Vous le savez? Des best-sellers en prison. Donc la prison devient un moyen favorable pour écrire un livre qui va le faire connaître dans le monde entier. Tu n'iras pas en prison. Mais si tu es au chômage, peut-être que tu as commencé à écrire quelque chose. Il y a des ministères qui naissent en période de crise. Des ministères qui naissent en période de crise. Comme la personne semble être même imbue d'elle-même, qu'elle n'a pas envie de répondre à l'appel de Dieu, Dieu provoque une crise dans la société, on le met dehors. On met cette personne dehors. On la met dehors. Tu as fait quoi? Tu as 24 heures à ta disposition. Tu as dit, oh Dieu, tu as commencé à t'approcher de Dieu. Et au fur et à mesure, Dieu dit, maintenant, tu commences à devenir sensible à ma parole. Parce que tous les jours, tu te réveilles à 5h30. Tu dis, Monsieur Dieu, bonjour. Je te prie, Seigneur Dieu, garde ma journée, bénis ma femme et mon enfant. Et à 6h30, tu es sur la route. Quand tu reviens à la maison, il est quelle heure? 22h. Tu dis, tu manges rapidement. Il dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Bon, bénis ce repas là que tu es en train de dormir. Et tu dis, bénis le repas. Tu ne peux pas prier. Donc, dis, ok, il va créer une petite situation. La période de crise est une période favorable. Faut dire amen. Amen. Vous t'amènes les faibles, on dirait. Tu ne comprends pas. J'espère qu'on est ensemble. Hein. Mais crise partout. Ça peut être dû à des attaques. Tu subis une attaque. Pas forcément. Et puis, tu te rends compte que ça ne va pas. Tu es obligé d'approcher de Dieu. En période de crise, Dieu se glorifie. C'est une période d'investissement. Je vous montre aussi que la période de crise, c'est une période au cours de laquelle, deuxième point, on annonce la parole de Dieu. La période de crise. Et un dernier point par lequel je vais finir. En période de crise, c'est une période au cours de laquelle l'évangile se répand. Et les disciples l'ont expérimenté dans Actes chapitre 4, verset 1. Quelqu'un me dit ça? Dans Actes chapitre 4, verset 1. Et puis arrivé, puisque tu n'as plus rien à faire, tu as fait quoi? Tu as prié? Tu vas gêner, tu vas témoigner. Forcer, puisque tu n'as rien à faire. Donc, vous voyez que c'est une période favorable pour faire quoi? Pour que le ministère que tu as reçu, qui a été déposé en toi, se manifeste. Je le dis pour ceux qui ont appelé le ministère. Je ne parle pas de tout le monde. Hein. Actes chapitre 4, du verset 1 au verset 4. As-tu, tu me lis ça au micro?
Allô. Actes chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Mm-hmm. Verset 3.
Oui.
Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000
personnes. Regardez, comment Dieu a de l'humour. Il atteint une période de crise pour que la parole soit répandue. Quand ils ont arrêté Pierre et Jean, après que un miracle a eu lieu, notamment le fait que le paralytique a marché, c'était une période de crise pour eux. Ils ont été arrêtés, ils ont été bastonnés, frappés, menacés. On a interdit de prêcher en son nom. Mais c'est là même que l'évangile a commencé à se multiplier. Les hommes ont commencé à se multiplier. Et vous vous rappelez que la persécution a commencé là. Et à cause de cette persécution, l'évangile qui était concentré uniquement dans quelle ville? À Jérusalem, où il n'y avait qu'une seule église. À cause de la persécution, une persécution pendant la crise, à cause de la persécution, les gens ont été remplis de zèle, remplis de courage, et ils ont commencé à aller où? En Samarie, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le maître avait dit, vous prêchez l'évangile où? À Jérusalem, où encore? En Samarie, en Judée, et où encore? Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la période de crise a été une période favorable. Je dis bien, la période de crise, est-ce quand ça vient de Dieu? C'est toujours une situation favorable. Pour une église, c'est favorable. Nous, on avait une église de plus de 700 membres au campus. Ça a été fermé. On a ouvert une église à Blokos qui est en train de très bien se comporter. Notre église à Nono qui a commencé aussi, elle, à se mettre en place. À Blokos, il n'y a pas d'église évangélique. J'ai pris là-bas, là. Tu es méthodiste, tu es ariste ou tu es catholique. À Blokos, ils ont commencé à bâtir une église. Et les enfants du chef du village viennent à l'église. Et les soirs, il n'y a pas de place dans l'église. Avant, les gens qui étaient blocos, ils étaient peut-être 10 maximum et venaient faire culte au campus. Bon, je vous parle, ils sont presque 100, plus de 80, il n'y a plus de place. Donc, vous voyez que quand une crise arrive, Dieu a un plan pour que cette crise devienne pour toi une période favorable. Dis à ton voisin, la crise est une période favorable. J'espère que vous comprenez la profondeur de mon message. Hein. Comprenez la profondeur. C'est ce qui est arrivé à Jérusalem. La persécution les a poussés à aller loin. Aller très, 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 très loin pour commencer à toucher les païens, c'est-à-dire les gentils, les non-juifs. La même chose s'est passée également à l'époque plutôt plus ou moins contemporaine. Ceux qui ont bâti les États-Unis, les pères fondateurs des États-Unis, c'est qui? C'était les croyants protestants persécutés en Europe, en Angleterre, en Irlande. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? S'il n'y avait pas de persécution en Irlande, en Allemagne, il n'y a pas de persécution en Angleterre, ils ne seraient peut-être pas allés aux États-Unis pour bâtir la nation la plus puissante. Et ceux qui savent l'histoire, ils ont bâti la nation en prenant Dieu à témoin. Ils ont ouvert la Bible, ils ont proclamé Dieu sur cette terre. Ça a été fait il y a environ 3 siècles maintenant. Donc quand la crise arrive, c'est que Dieu veut atteindre des territoires. Donc ta crise, quand elle arrive, c'est que Dieu veut t'élargir. Il faut dire Amen. Une crise est un temps d'élargissement. Au plan spirituel, au plan matériel, au plan financier, ça peut être contradictoire, mais c'est un temps favorable. Une crise, c'est aussi une période où qu'est-ce qu'on fait? C'est une période où on apprend à adorer Dieu. Dans Actes chapitre 16, vous connaissez ce passage-là? Dans Actes chapitre 16, dans Actes chapitre 16, verset 23, verset 26, Paul et Silas avaient été arrêtés parce que Paul et Silas avaient chassé un démon de la vie d'une fille. Et comme ce démon, en fait, c'était un démon de 10 heures de bonne aventure d'astrologie, ils se sont rendus compte que leur business était foutu en l'air. Ils ont pris Paul et Silas, ils les ont attachés, ils les ont mis où? En prison. C'est une période de crise pour eux. Et c'est en prison que Paul et Silas ont commencé à faire quoi? À chanter et à louer. Et quand ils l'ont fait, la puissance de Dieu s'est manifestée, les chaînes ont été brisées, ils sont sortis. Et le geôlier, donc le gardien, voulait faire quoi? Il voulait aller se tuer. Paul dit, non, ne te tue pas. C'est Dieu qui l'a fait cela. La même nuit, ce monsieur accouche. Paul lui a dit, il dit, crois, toi et ta maison, et vous serez sauvés. La même nuit, ils se sont fait baptiser toute sa famille. Une période de crise a conduit Paul et Silas à louer Dieu. Donc, au sein de la crise, il faut apprendre à louer Dieu. Les grands cantiques viennent des périodes de crise. L'un des plus grands cantiques qu'on a dans la Bible, c'est les psaumes. Les grands cantiques, c'est les psaumes. La plupart des psaumes que David a écrit, il a écrit à quelle période? Quand on le poursuivait, quand il fuyait, il a écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le psaume le plus connu. Mais il a écrit ça au moment où David avait des problèmes. C'est pas ça. Il dit, je suis à l'abri du Très-Haut. Vous voyez, pourquoi il dit que Dieu est comme son appui? Il dit, celui qui s'assoit à l'abri du Tout-Puissant et s'assoit. Enfin, comment on dit? Celui qui est assis. Psaume 91, ne m'entends pas ici. On m'écoute. Psaume 91, lisons-le. Psaume 91. Voilà le passage. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je voulais être précis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu retrouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est en période de crise qu'on expérimente les grands moments avec Dieu. Les grands moments avec Dieu. Quelqu'un dit, mais Seigneur, je vais rêver spirituel, je vais devenir une puissante forme de Dieu, un grand homme de Dieu. Dieu dit, ah! Tu es en train d'appeler sur toi la période de crise. Parce qu'on ne devait pas demander Dieu au hasard. Il faut que tu pries. Mais quand tu manges, quand tu es bien ciré, est-ce que tu peux bien prier? C'est difficile pour toi. Peut-être que tu es trop rassasié. Dieu dit, ok, une petite crise. Et tu vas prendre à gêner. Il n'y a pas à manger, tu vas gêner. Tu vas faire quoi? Chercher la face de Dieu. Commencer à composer des beaux cantiques. Quand on est rassasié, on chante n'importe quoi. On chante n'importe quoi. Vous les chants, vous voulez avoir des cantiques qui bouleversent le monde. Attention, hein. Quand vous prenez le livre Les Aides de la foi, il y a des chants, quand vous racontez l'histoire de ce chant, vous dites à Dieu, je ne veux pas que ça m'arrive. J'ai oublié ce cantique-là. Ça peut-être un cantique, les cantiques de victoire. Il devait se marier, il était fiancé. Vous devez connaître cette histoire, mais j'ai oublié le nom. Et c'est à la veille de son mariage, ça me venir à la tête. Madame, tu ne connais pas ce cantique-là? On change la grille, me dit. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout puissant. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ. Connaissez l'histoire de ce chant des. Connaissez l'histoire de ce chant des. Le monsieur était fiancé. Il devait se marier, sa femme est morte. À la veille de son mariage, ou à quelques heures de son mariage. Il y en a ici, là, il a quitté l'église. Il a dit, parce que Gagui n'a pas l'onction. Comment ma femme est morte? Enfin, fiancée. Il n'a même pas goûté un peu. Au moins, quand c'est après la nuit de miel, d'accord, moi, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il dit? Que l'ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêts à nous entendre, à répondre à notre cri. Comment on dit ça? Il est nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévères ses exigences, il est riche en son amour. C'est ça, ça vient de là. Ça ne vient pas d'un gros loto ou beaucoup d'argent. Ça vient d'un homme qui a perdu sa fiancée à quelques heures de son mariage. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Dieu va te passer par d'autres situations. Et il s'est mis à chanter. C'est un hymne qui est connu dans le monde entier. On chante ça devant, on ne sait même pas lire son histoire. Voici son histoire. Donc, les périodes de crise, c'est une période favorable. Évidemment, il s'est remarié. Je ne connais pas son histoire, mais il pense qu'il a dû se remarier. Donc, sachez une chose, les périodes de crise que vous traversez, que nous traversons, n'ont pas vocation à nous tuer. On dit même de manière générale que tout ce qui ne tue pas, fait quoi? Ça rend fort. Mon frère, tu ne mourras pas, tu seras fort. Tout ce que tu pars en fort. Il ne faut pas que parce qu'une crise est sur toi, tu dises, mais Seigneur, ça ne va pas. La crise, je le répète, peut être une période favorable. Donc, venez voir que la crise est une période où il faut investir. La crise est un temps où il faut prier. C'est un temps où il faut adorer. C'est un temps où il faut faire quoi encore? Un temps où il faut partager la bonne nouvelle. Et sixième point, sur lequel on va s'arrêter, peut-être cinquième point, la crise, c'est un temps favorable pour s'aimer dans la maison de Dieu. C'est le dernier point. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter là. La crise, c'est une période favorable pour s'aimer. Si la crise est une période favorable pour investir, une période favorable pour annoncer la bonne nouvelle, l'église de Jérusalem s'est accrue. Elle s'est multipliée. Le monde a été touché parce qu'il y a eu une crise. Les gens sont allés jusqu'à Rome et partout au monde entier parce qu'il y a eu une crise. Si la crise est une période favorable pour prier, mais aussi pour adorer, composer des beaux cantiques. La crise, c'est une période favorable pour s'aimer dans la maison de Dieu et s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Et j'étais étonné ce matin. Mon message, j'avais préparé depuis longtemps. Mais ce matin, quand j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur cet aspect. Je ne pensais même pas à ça. Et j'ai commencé à faire la Bible. Il dit, ce n'est pas possible. Effectivement, les sémences, les offrandes qui ont le plus touché le cœur de Dieu ont été faites en période de crise. Ça m'a étonné. On va voir ça tout à l'heure. On va prendre deux exemples. Deux exemples. Prenez vos Bibles. Dans 2 Rois chapitre 17. Non, 1 Rois chapitre 17. 1 Rois chapitre 17 du verset 8 au verset 16. C'est le dernier point. Et on va déclarer les promesses de Dieu pour que ceux qui passent par les périodes de crise ne puissent pas s'assombrir, ne puissent pas maudire Dieu, mais lèvent les mains vers le ciel en disant, Dieu, je sais que la crise prendra fin. Et de mes yeux, je verrai ta gloire. J'ai même pas le temps de parler de Job. C'est en période de crise qu'elle a dit à Dieu, je sais que mon rédempteur est vivant et s'élèvera le dernier, en période de crise. Voilà ce qui est écrit ici, dans 1 Roi chapitre 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, c'est-à-dire à Élie, en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, c'est-à-dire au Liban actuel, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cuche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Je m'arrête un instant. Voici une période de crise grave. C'est lui-même qui a fermé le ciel, lui-même. Lui-même qui a fermé le ciel. Quand il était fâché, il a dit, il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Envoyé, il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Il dit, je ferme le ciel, le ciel sera fermé pendant 3 ans. Il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. Il dit, sinon à ma parole. Si c'était Dieu qui l'avait parlé, qu'est-ce qu'il allait dire? Il a dit, sinon la parole de Dieu. Il a dit, ainsi par l'Éternel. Il dit, sinon à ma parole. Mais le ciel est fermé, il ne mange pas. Il faut pas qu'il mange. Il était fort. Hein. Vous savez comment le voit, il dit, toi, tu es un homme fort. Tant que tu fermes le ciel, puis après, tu as faim. Comment tu fais maintenant? Mais Dieu avait prévu un miracle pour Élie. Il faut dire, amen avec moi. En période de crise, Dieu voulait manifester quelque chose de glorieux. Et Dieu s'adresse à qui? Dieu s'adresse d'abord à une païenne. C'est étonnant. Sarepta était une ville qui appartient à Sidon, dans la contrée, à peu près du Liban. Ce n'était pas des Juifs. Pour nourrir son serviteur qui est en train de mourir de faim, après que Dieu l'a nourri par qui? Par les corbeaux? Ou par quoi? Par les corbeaux? C'est vers une femme non juive. Un, c'est une faiblesse. Deux, c'est une femme, pas parce que c'est péjoratif, mais parce qu'elle n'a pas la même force comme l'homme pour courir partout. Trois, elle est veuve. Quatre, elle était pauvre. Elle n'avait absolument rien. Comment un grand Dieu qui est si bon, qui est majestueux et élevé, peut dire à son serviteur, Élie, c'est un prophète d'un niveau différent. C'est pourquoi à la transfiguration, c'est Élie et Moïse que Jésus a vu. Élie, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Élie, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui. Il représente les prophètes. Et Moïse représente quoi? La loi. Et à la transfiguration, c'est Élie et Moïse que Jésus-Christ a rencontré, avec qui ils ont parlé. Ils ont parlé ensemble. Maintenant, écoutez quelque chose. Comment un prophète d'un niveau particulier, si c'était, si on allait dire Archbishop, comment on a commencé à répandre, je ne sais même pas d'où ça vient ce nom-là. Moi, je ne veux pas de la collaboration avec les bishops. Hein. Non, je ne veux même pas. Je n'ai pas un ami qui est bishop. Je ne veux pas. En parenthèse, moi, je pense que ce nom bishop-là, ça veut dire évêque. Évêque veut dire ancien. C'est dans la Bible. Et les anciens, au premier siècle, on sont devenus les pasteurs. Donc, bishop n'est pas supérieur à quelqu'un. En parenthèse, ça n'a rien à voir avec mon message, c'est une parenthèse que je fais. Pour moi, hein, c'est un mot qui a été inventé ou qui a pris un sens particulier pour que l'église évangélique soit introduite dans l'ordre religieux mondial. Moi, je crois ça. Je crois ça. Parce que c'est le seul corps religieux qui n'est pas organisé et qui n'a pas leader. On n'a pas un président mondial des évangéliques, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'a pas un lieu saint où on va nulle part. Nous, ici, on prie et puis Dieu nous exauce. Maintenant, comment faire pour capter notre attention? Il faut qu'il y ait des liens avec des noms. On trouve les achiches à Bishop où? On les trouve où? Maintenant, si vous avez le même nom, et puis on vient vous un depuis Rome ou depuis les États-Unis par les pasteurs PD. Pardon, c'est bon comme ça. Vous comprenez que ce n'est pas musulman, c'est vrai. Hein? Moi, je ne parle pas avec. Non, je suis un bishop, ce n'est pas mon ami. Moi, je suis pasteur, je vais rester pasteur. C'est une parenthèse. Bon, après, on va effacer ça. Mais là, ce que je vais dire, imaginez un prophète de la dimension d'Élie. Un serviteur de Dieu dans le sens le plus du terme. Qui va aller négocier. Ah. Francis et moi, finalement, je me sentais humile, quoi. Il a dit à Dieu, mais une pauvre femme, d'abord elle n'est pas juive, elle ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas Moïse, elle ne connaît pas Abraham, elle ne connaît pas Isaac. Elle sérine la Bible, elle ne connaît pas tout cela. Tu lui dis à moi, Élie, prophète de l'Éternel, d'aller négocier sa nourriture. Oui, Élie même a eu des problèmes, elle a eu du mal à demander à manger. Elle a commencé par quoi? Par l'eau. Parce que c'est plus facile de demander de l'eau. Oh. C'est plus facile de commencer par l'eau. Parce que partout, quand il y a quelqu'un qui demande de l'eau, bon, on donne de l'eau. Donc, dans un premier temps, Élie avait un problème. Comment faire pour manger le dernier repas? Parce qu'il savait que la femme avait un dernier repas. C'est un prophète, il savait. Un dernier repas. Comment faire pour manger le dernier gâteau de la femme pour ne pas qu'elle se fâche? Et il négocie cette situation. Il dit, bon, va me chercher de l'eau. Il boit l'eau. Ce n'est pas l'eau qu'il cherche. Parce qu'il y a l'eau partout. Il peut boire l'eau, enfin... C'est pas un problème, l'eau, t'es pas un problème. Ben, l'eau, on donne ça facilement. Mais nourriture, le dernier gâteau. Oh. Quel abus que son cœur est content. Il me dit, comment je fais maintenant? Je lui dis maintenant, tu ne veux pas demander ce que je veux. Mais qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas demander. Il lui dit, ma femme, ma chérie, si c'était ma chérie, oh, j'aime ton affaire, tu es tellement gentil. Je t'en ai commenté, hein. Non, tu as été bien parce que quand je t'ai vu, tu es bien. Vraiment, on dirait que toi-même, tu connais le Dieu d'Israël. Hein. On dirait que tes parents. Non. Elle dit non, je ne connaissais pas Dieu d'Israël. Mais c'est-à-dire que bon, il fallait me chercher un peu à manger. Elle dit quoi? Ton Dieu est vivant. Mais moi, mon Dieu, je vais mourir dans quelques heures. J'ai un petit gâteau, une petite farine. Je vais le manger, moi et mon enfant. Et puis, on va attendre la mort. Dieu envoie l'un de ses meilleurs serviteurs a demandé à manger à une femme qui était en train de mourir. Moi, je crois que cette femme, elle avait des bonnes dispositions. Écoute-moi très bien. À chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose qui dépasse vos forces, c'est que Dieu a prouvé quelque chose de glorieux. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous assure, quand on comprend ça, notre vie change. Notre façon de donner à l'église, nos offrandes, ça change tout. Il y a les secrets des principes qu'on doit pouvoir partager. Dieu a vu le cœur de cette femme. Dieu a vu son cœur. La personne qui était la mieux placée, ce n'était pas elle. C'était une juive peut-être. Mais dites, parmi tous les juifs, ce n'est même pas lui. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui a un bon cœur. J'irai vers cette femme. Cette femme païenne. Qui n'a qu'un peu, à manger. J'irai vers elle. Et mon serviteur mangera. Parce que moi, Dieu, j'ai prévu quelque chose. Quand la femme a parlé ainsi, voilà ce que dit la parole de Dieu. Il a commencé à prophétiser. La suite du passage. Il a commencé à prophétiser. Quand ainsi parle l'Éternel. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, c'est qu'ainsi parle l'Éternel vraiment. Le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cuche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface de la terre. Il faut dire amen avec moi. La femme devait mourir dans les heures qui suivent. Ou peut-être 10 jours après, ou 2 semaines après. Dieu a vu son cœur. Parce que Dieu a dit à Élie, va, il y a une femme qui va te faire quoi? Qui va te donner à manger. Donc Élie savait qu'une femme allait lui donner à manger. Donc il marchait comme ça sans savoir qui. Et puis tout d'un coup, il rencontre la femme. Chaque fois, je vous assure, chaque fois que Dieu vous demande une offrande qui dépasse vos capacités, moi, je le crois. Il a prévu quelque chose de beaucoup plus glorieux. Je sais qu'on a toujours manipulé les gens avec ça, mais je vous assure, chaque fois que tu demandes cela, il a vu le corps de la femme. Elle était la seule qualifiée à faire ce sacrifice suprême. Mais avant qu'elle le fasse, elle a reçu une parole. Il n'était pas d'abord manger avant de prophétiser. Elle n'allait pas croire. Mais quand Élie a prophétisé, ainsi parle l'Éternel, l'huile ne manquera pas dans ta maison, la farine ne manquera pas dans ta maison, et jusqu'à ce qu'il pleuve, la femme a eu le courage. Ce matin, je vais te dire une chose. Quand tu vas te lever pour dire, Gadi Abraham, homme de Dieu, je vais s'aimer pour bâtir cette maison où le nom de Dieu sera glorifié. La parole sur ta vie va s'accomplir. Je le crois. Vous savez, des fois, on arrive à une situation où c'est déclaration contre déclaration. Parole contre parole. Quand la femme a entendu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'élève. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien que lui. Une précision. On ne dit pas que elle et son fils. Oh. Est-ce que tu as la révélation? Lis la parole. Au départ, elle disait, moi et mon fils, nous allons mourir. Mais elle dit, elle et sa famille. En temps, la famille a été élargie. Tu es le point de contact. Pourquoi ta famille saute la mort qui est en train de venir ou la misère? En acceptant de prendre Dieu au mot, la femme a pris Dieu au mot. Non seulement elle n'est pas morte, mais sa famille, elle, a été gardée, sauvegardée. Et à cause d'elle, le prophète Élie a accompli sa mission. Il le fallait. Et ouvrez plus tard, au chapitre 18, que Élie, qui n'est pas mort à cause de la prophétie, lui-même, il a eu à manger. La femme a eu à manger. La famille de la femme a eu à manger et Dieu s'est glorifié et la puissance de Dieu s'est manifestée. Pourquoi? Élie avait une mission. Quelle était sa mission? Élie devait entrer en confrontation avec qui? Avec les prophètes de Baal. Chaque don qui est fait par inspiration de Dieu a une mission particulière. S'il n'était pas, il serait mort. Probablement, je parle au plan humain. Les prophètes de Baal allaient régner. À cause de l'offrande de cette femme, l'offrande existentielle de cette femme, Élie non seulement est resté en vie, mais Élie a affronté les prophètes de Baal et les a vaincus. Ce n'est pas tout. Élie, plus tard, a reçu la part de Dieu que sa mission était terminée et que Élisée allait le remplacer. La puissance de l'offrande. Je vais m'arrêter là. Je dis que Dieu crée des temps favorables. Et quand la crise est aiguë, et quand un besoin de Dieu est exprimé, prends Dieu au mot. Dis, Seigneur, je serai comme cette femme veuve Sarepta. J'apporterai mon offrande pour que ton serviteur Élie affronte les prophètes de Baal. Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas qu'il y avait tout cela. Mais son offrande a mis l'homme de Dieu. Lui a donné la vie et l'a fondé les prophètes de Baal. Ton offrande pour la construction de ce temple-là va mener des gens à être sauvés, à être guéris. Tu pourras dire à Dieu, je te remercie parce que tu le fais. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On va prier. La crise est un temps favorable. En période de crise, il faut s'aimer. C'est-à-dire qu'il faut investir. En période de crise, il faut prier. Ne baissez pas les bras, ne maudissez pas Dieu. Ne renoncez pas à l'église, ne dites pas, ça ne vaut rien, je ne comprends rien, je me retire. En période de crise, commence à chercher des cantiques et louons Dieu. Quel ami fidèle et tendre. Ce n'est pas le thème qui correspond à cela, mais on va le chanter en pensant à cet homme-là qui a composé un cantique concernant toutes les églises. Protestants comme évangélistes dans le monde entier qu'on connaît. Parce que quelqu'un, il y a un siècle en arrière, a connu quelque chose. Passes-tu par une période de crise? Chante, loue Dieu. Bénis son nom. Tant que tu as envie, si tu traverses cette crise, tes yeux verront sa gloire. Oh Dieu, merci. Bénis le nom du Seigneur ce matin. Commence à prier pour toi, prends un engagement pour toi-même. Ce message s'adresse à tout le monde en fonction des situations que nous traversons. Afin de savoir que la crise ne vient pas pour te tuer. Elle ne vient pas pour t'écraser. La crise vient pour préparer une porte de sortie glorieuse. Et voir la manifestation du plan de Dieu. C'est ça le but de la crise. Je parle d'une crise que Dieu a permise. D'une crise que Dieu a autorisée. Je ne parle pas d'une crise que Satan envoie. C'est lequel chant? Ce sont 18. Qui connaît ce cantique là-bas? On va le chanter ensemble. Et pendant qu'on le chante, pense à ta propre crise par laquelle tu passes et rends grâce à Dieu en disant, Seigneur, la crise par laquelle je passe ne me tuera pas. Cette crise est une période favorable afin que je rencontre tes merveilles et que j'expérimente ta grâce, afin que mon témoignage soit grand et que ceux qui m'écoutent sachent que tu es avec moi, parce qu'en parlant, je parlerai sur la base des choses concrètes des choses vécues et non pas des choses que les autres ont vécues. Prie le Seigneur pour toi-même et que ce message te sorte d'une situation de crise et que ça t'amène à prendre l'engagement. Message t'a touché ce matin, que tu passes. Il y a plusieurs types de crises. Hein. Vous avez crise au foyer, crise de santé, crise financière, crise de communion avec Dieu. Tu n'as plus à prier. Tout sont des crises. Dis à Dieu, cette crise ne me tuera pas. Je veux que tu parles à Dieu toi-même ce matin. J'aime bien que tu puisses parler toi-même pour que tu sors de là. Oh, je veux que toi-même tu puisses le prier. Oh Seigneur, tu vois beaucoup de personnes qui passent par des périodes de crise. Si tu passes par une période de crise, je ne peux pas prier pour toi un en un, mais je veux que tu lèves la main simplement. Je veux qu'on s'asseye, on s'asseye d'abord. Et ceux qui passent par des périodes de crise, je veux que ça tienne debout simplement. On va prier ensemble. Voilà, ceux qui passent par des périodes de crise. On va prier ensemble. La crise peut venir, tu doutes de Dieu des fois, parce qu'elle peut lui être un échec. Moi, j'ai échoué, c'est vrai. L'échec ne m'a pas tué. L'échec n'est pas un problème. La galère n'est pas un problème. C'est comment on se comporte, comment on réagit. Si on ne se décompose pas et qu'on garde la confiance en Dieu, la crise peut être une semence qui donne la victoire. Tous ceux dont on parle la parole de Dieu ont connu des crises. Dieu a fait une promesse à un homme comme David, il pense à lui. Dieu l'a oint. Une vraie onction avec un vrai prophète qu'on appelle Samuel. Ça veut dire que je t'établis comme roi en Israël. Mais même David a connu la galère. Il a joué au fou. Il a mangé les pains de propitiation qu'on ne doit pas manger en principe. Il a joué au fou, il bavait comme un fou. Dieu lui dit, tu es roi. Mais ce David sur la terre passe par la galère. Il a senti la mort, il a senti la mort, il a senti la mort. Est-ce que Dieu avait menti? Non. C'est parce que la promesse de Dieu est passée sur toi qu'elle okay, s'accomplit automatiquement. La crise est une période favorable. Donc, j'ai fait une prière qui n'est pas logique. Dis à Dieu, je te rends grâce pour la crise que je traverse. Rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu pour cela. Bénis Dieu pour la crise que je traverse. Elle peut être morale, elle peut être spirituelle, elle peut être financière, elle peut être liée à l'école, à la profession. Rends grâce à Dieu. Bénis son nom. Bénis son nom. Et je te remercie pour la crise. La crise a permis que l'évangile puisse toucher le monde entier. C'est une crise qui a fait ça. Sinon, Pierre, Jean et Jean ne voulaient pas bouger de Jérusalem, mais ils étaient là-bas. La crise a fait ça. Que Dieu change ta crise en quelque chose de glorieux. Bénis son nom pour cela. Dis, Seigneur, je sais une chose. Cette crise par laquelle je passe, et tu peux l'identifier, ne me tuera pas. Ne me tuera pas, je m'en sortirai. Je m'appuie sur toi, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Job est passé par une crise aiguë. Et la Bible déclare que Dieu lui a parlé au sein de la tempête. Dans la tempête, Dieu lui a parlé. Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et lui seul se lèvera le dernier. La crise ne tuera pas. Le grand prophète Élie a connu une crise au point qu'il n'avait pas à manger. Il n'avait pas à manger. Un grand prophète qui n'a pas mangé, qui va aller négocier la nourriture d'une pauvre femme. Il y a une crise alimentaire. Dieu s'est glorifié. Le fils, la promesse Isaac, a connu une crise dans un pays qui ne lui appartenait pas. Il a voulu fuir. Dieu dit, tu ne bouges pas. Reste dans ce pays-ci parce que là, je vais te bénir. Isaac a été béni et il a prospéré. Je dis maintenant de la même manière. Isaac a écouté la voix de Dieu et la crise ne l'a pas tué. Cette crise que tu traverses ne te tuera pas. Isaac a survécu la crise. Toi, tu vas survivre à la crise que tu traverses. Isaac a sémé, il a investi en plein de crise. Isaac a récolté au centuple. Toi, tu vas récolter au centuple. Toutes ces manches que tu fais en plein de crise, ces manches de prière, ces manches d'adoration, ces manches d'intercession, ces manches de témoignage, ces manches en tant qu'argent donné à Dieu pour dire, Seigneur, je suis en crise, mais je te prends au mot. Toi à qui l'argent et l'eau appartiennent, je sème dans ta maison. Cette crise ne sera pas pour toi une porte fermée, elle sera pour toi une porte ouverte. Et tu pourras dire, j'ai vu la crise, mais j'ai vu Dieu. J'ai vu la crise, mais j'ai vu Dieu. Dis avec moi, Seigneur, cette crise par laquelle je passe, cite le nom de la crise que tu traverses. Cette crise ne me tuera pas. Dis le nom de la crise et adresse-toi à la crise pour dire crise financière, sentimentale, morale, je ne sais pas. Toi, tu sais ce que tu vis. Parle à la crise pour dire, je ne mourrai pas sous ta juridiction. Je ne mourrai pas sous ton empire. David n'est pas mort alors qu'il était poursuivi par Saül. Le roi, l'ami d'une nation cherchait un individu. Imaginez une chose. L'armée d'un pays cherchait un individu. C'est comme si l'armée de Côte d'Ivoire me cherchait moi, Gadia Brave. Mais tu es mort? Où? On bloque les frontières, je suis mort. L'armée a cherché un homme. L'armée n'a pas pu le trouver. Aucune armée ne te trouvera, ne pourra t'atteindre. Parce que Dieu a déposé sur toi sa main. Il faut dire amen avec moi. Si tu comprends ma parole ce matin, cette parole prophétique, tu vas sortir de ce lieu guéri et transformé. Une crise devait tuer le prophète Isaac et Élie. Il n'est pas mort. Une femme devait mourir, elle et sa famille, elle n'est pas morte. Elle a ouvert son cœur à Dieu, elle dit, Dieu, je suis en crise, mais ton serviteur m'a parlé. Je prends au mot sa parole et je donne ma farine que j'ai. J'ai une certitude, je ne mourrai pas, je ne mourrai point. Cette femme n'est pas morte, elle et sa famille. Tout acte que tu vas poser en période de crise sera compté comme un acte important. Parce qu'on est rassasié, ce qu'on donne, c'est du superflu. C'est qu'on a faim qu'on partage, c'est là que le partage a un sens. Mais quand on partage parce qu'on a trop à manger, on a envie de jeter ça. On n'a pas envie de jeter ça dans les poubelles. C'est un partage, c'est un superflu. Tout acte que tu vas poser, Toute décision que tu vas prendre concernant ce que tu vis va être pour toi un acte spirituel important. Père céleste, je sème cette parole. Je sème cette parole. Afin que toute décision liée à leur vie, liée même à ma vie en tant que serviteur, en tant que le pasteur, liée à la construction de ce temple qui me tient tant que, mais qui davantage te tient tant que, Seigneur, tout doit s'aimer dans ces conditions. Sois marqué du sceau de ta grâce dans le nom de Christ Jésus. Dis avec moi, Seigneur, tu reçois ma prière. Tu reçois ma prière. Et je déclare que la Christ ne me tuera pas. La même manière Élie a survécu, je vais survivre. La même manière la veuve de Sarepta a survécu, elle et son fils, mieux, elle et sa famille, je vais survivre. Moi et ma famille, nous témoignerons, nous bénirons ton nom et nous dirons que tu es le grand Dieu. Seigneur, l'échec ne me tuera pas. La pauvreté ne me tuera pas. La misère ne me tuera pas. Le célibat ne me tuera pas. L'altérité ne me tuera pas. Je m'en sortirai parce que tu es avec moi. Je déclare ces paroles. Parce que tu es avec moi, Seigneur, je m'en sortirai. Comme Élie, j'accomplirai ma mission dans le nom de Christ Jésus. Toute mission que tu m'as confiée depuis l'éternité s'accomplira à cause de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Camille fidèle, vas-y.
Que l'ami fidèle étant.
On prépare la scène.
Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Quel ami fidèle nous avons, quel ami fidèle étant. Nous avons en Jésus,
nous avons en Jésus-Christ
toujours prêt à nous entendre,
toujours prêt à nous entendre,
à répondre à notre cri.
Jésus,
Jésus, Jésus, quel ami
Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, que Dieu nous aide vraiment à être des hommes et des femmes sûrs de lui. Je dis quelque chose qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, mais je vous le dis, Dieu existe. Dieu existe, Dieu est réel. Parce que c'est la même tautologie. Mais Dieu est réel, il existe, vraiment, il existe. Il agit, il répond, il délivre, il sauve. Il intervient dans l'histoire de quelqu'un directement. Il te propulse. Dieu aime les gens de challenge. Les gens de challenge. Et chaque fois que tu passes par une crise, si tu ne baisses pas les bras, ce Dieu que tu cherches tant va se révéler, se manifester. Et tu témoigneras. Tu parleras. Avant-hier, j'ai dit au frère qui était là que j'ai un souhait parce qu'en fait, il y a deux sortes de joie. Il y a des joies qui amènent à crier, à rire. Il y a des joies qui t'amènent à pleurer. En 2011, j'ai connu une joie qui m'a amené à rire, à chanter. Mais je m'entends maintenant une joie qui m'a amené à pleurer. Quand c'est tellement fort, tu ne ris plus, tu pleures. Dis, mais Dieu, tu pleures à toute l'âme. Oh, c'est trop fort, tu ne peux pas. Pierre, le jour où Jésus a multiplié, enfin, il a eu la pêche miraculeuse, il n'a pas ri, il a pleuré. Il dit, Seigneur, il faut quitter, parce que là, c'est pas possible, là, je ne peux pas, là. Là, Pierre a tremblé. Il y a des miracles, il y a des actions de Dieu qui te font trembler. Là, tu ne ris plus, hein, tu dis, ça, là, c'est trop fort. Est-ce que c'est vrai même? Tu touches ton corps. Est-ce que c'est moi? C'est toi. C'est toi, Dieu t'a propulsé. Et je crois à cela, c'est pourquoi saisir chaque occasion pour prendre et mettre Dieu au défi. Que Dieu nous bénisse. Cette parole vous aide et nous aide. On va passer aux offrandes.